VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde aujourd'hui, édition du mercredi 9 janvier 2019. En direct de Washington, Idrissa Seroudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
En République démocratique du Congo, les résultats provisoires de la présidentielle du 30 décembre dernier pourraient être annoncés d'ici 24 à 48 heures, a dit hier la CENI.
De hauts responsables de l'ONU, de l'UA et de la CEAC, et de la sous-région aussi, en visite à Bangui pour relancer le processus de paix en République centrafricaine.
Au Nigeria, le gouvernement appelle les médias à la retenue dans la couverture du groupe Boko Haram.
Ici à Washington, allocution télévisée à la nation du président Donald Trump sur la situation à la frontière des États-Unis avec le Mexique.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
En RDC, la Commission électorale nationale indépendante a indiqué hier soir que les résultats provisoires de l'élection présidentielle du 30 décembre dernier pourraient être annoncés d'ici 24 à 48 heures. C'est un travail colossal qui ne peut pas se terminer en quelques heures, a déclaré à l'AFP le président de la CENI, Corneille Nanga. La CENI compte consacrer entre 24 et 48 heures à ce travail. C'est à l'issue de ce délai que la CENI va programmer la proclamation des résultats, a-t-il ajouté. Dans l'après-midi, des habitants de la capitale, craignant des troubles, ont pris d'assaut plutôt que d'habitude les transports collectifs sur la foi de la rumeur d'une proclamation imminente de ces résultats. Un vent de panique s'est aussi emparé de Lubumbashi. Le point avec notre correspondant sur place, Narval Mabila.
Dans les après-midi du mardi, les rumeurs que la CENI aurait proclamé les résultats de la présidentielle. Pour certains, c'était Félix Tshisekedi qui serait passé. Pour les autres, c'est Ramazani Shadary. Pour les autres, c'est Martin Fayoulou. Alors que certains s'apprêtaient déjà à manifester pour dire que leur candidat qui devait passer n'a pas été proclamé. Déjà, les magasins commençaient à fermer. Et la tendance était pour certains groupes à la révolte. Pour les autres, c'est panique générale et la rumeur s'est répandue dans le centre-ville de Lubumbashi. J'en suis rentré rapidement à la maison. Déjà vers 17h, il n'y avait pas assez de mouvement au centre-ville jusque dans la soirée. La peur et les gens sont en alerte et ils attendent la proclamation. Donc les gens restent tendus. On ne sait pas si les élèves iront à l'école et certains ont peur même de se dire s'ils peuvent aller au travail. C'est la psychose maintenant.
De hauts responsables de l'ONU, de l'Union africaine, de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale et de la sous-région ont entamé hier une visite à Bangui. Ils tentent de relancer les efforts internationaux pour une paix durable dans le pays à travers le dialogue entre le gouvernement et les groupes armés sous les auspices de l'initiative de l'Union africaine, selon un communiqué de l'ONU. Cette visite à laquelle prennent part notamment Jean-Pierre Lacroix, chef du département de maintien de la paix de l'ONU, et Ismaël Chergui, commissaire à la paix de l'UA, doit se prolonger jusqu'à jeudi.
En Guinée, un tribunal de Conakry a mis en délibéré au 4 février le verdict du procès des assassins présumés de la directrice du Trésor public de Guinée, Aissatou Boiro. Elle a été tuée le 9 novembre 2012 dans son véhicule dans un quartier résidentiel de Conakry par des inconnus dont l'un portait l'uniforme de l'armée. Saluée pour sa probité et son courage, Madame Boiro avait été à l'origine du démantèlement d'un réseau ayant tenté en mai 2012 de détourner plus d'1,5 million d'euros de la Banque centrale de la République de Guinée, impliquant plusieurs cadres de la Banque, du Trésor et du ministère des Finances.
Au Nigeria, le gouvernement appelle les médias à la retenue dans la couverture du groupe Boko Haram. Et ce, après que l'armée a effectué une descente contre le journal, un journal accusé d'avoir divulgué des informations sensibles. Le point avec Bagassi Koura.
Les médias doivent trouver un juste équilibre entre la liberté de diffuser des informations et la sécurité nationale, a déclaré le ministre de l'Information, Lai Mohamed. Il a prévenu que les médias doivent faire preuve de retenue dans la couverture de l'insurrection. Des soldats et des agents des services de renseignement ont fait irruption dimanche dans le bureau du Daily Trust à Maïdougouri, Abuja et à Lagos. Ils ont saisi des ordinateurs et deux journalistes ont été arrêtés. Le quotidien avait publié un article en première page sur des plans militaires pour reprendre aux insurgés la ville de Baga sur les rives du lac Tchad. Cette ville a été temporairement prise par les djihadistes le 27 décembre. Les assaillants avaient mis en déroute en quelques heures quelques 500 soldats de la force multinationale mixte. Le porte-parole de l'armée, le général Sani Ousmane, a accusé le Daily Trust d'avoir divulgué des informations militaires classifiées qui ont donné aux islamistes une alerte précoce et ont saboté les opérations en mettant en danger la vie des troupes.
Au Zimbabwe, les enseignants du public entament aujourd'hui une grève pour obtenir le versement de leur salaire en dollars américains dans un pays en pleine déconfiture économique et financière. Le point avec Irénée Herman Umbo.
Les enseignants ne pourront pas se présenter au travail, a déclaré Richard Gundani, président de l'Association des enseignants zimbabwéens, principal syndicat du secteur. Nos revenus sont amputés, ce n'est pas tenable, a-t-il déclaré en précisant. Nous demandons des salaires en dollars américains. Les enseignants rejoignent les médecins qui ont entamé en novembre une grève pour obtenir, eux, le versement de leur salaire en billets verts. Les grévistes dénoncent une forte dévalorisation de leur salaire faute de liquidité. En 2009, le Zimbabwe a été contraint d'abandonner sa devise, le dollar zimbabwéen, au profit du dollar américain. Devant la fuite des billets verts, les autorités ont introduit des sortes d'obligations d'une valeur identique au dollar américain. Là encore, l'opération a échoué. Les Zimbabwéens ont renoué avec les rayons vides dans les supermarchés et les longues files d'attente dans les stations-service. La semaine dernière, le président Emmerson Mnangagwa a été contraint d'écourter ses vacances, mais c'est toujours l'impasse.
Au Soudan, le président Omar el-Béchir a accusé hier ce qu'il a qualifié de comploteur d'avoir provoqué les violences pendant les manifestations antigouvernementales déclenchées le 19 décembre par la hausse du prix du pain dans un pays en plein marasme économique. Dans la journée, des centaines de manifestants ont tenu un rassemblement pour les martyrs à Al-Gadaref, selon les termes des organisateurs, en hommage aux 6 personnes tuées lors de protestations le mois dernier dans cette ville de l'Est du pays, selon des témoins.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Ici aux États-Unis, le président Donald Trump a tenté hier, sur un ton grave, de rallier les Américains à son projet de mur à la frontière avec le Mexique, mettant en avant ce qu'il a appelé une crise humanitaire, mais ne faisant aucune concession à ses adversaires démocrates. Lors d'une allocution solennelle de 9 minutes, le président Trump s'est voulu rassembleur, renonçant à lancer une procédure d'urgence exceptionnelle qui, selon les experts, aurait mis le feu aux poudres. Des détails avec Jean-Roger Bion.
Au 18e jour d'un shutdown qui paralyse partiellement les administrations fédérales, Donald Trump a repris les arguments qu'il assène depuis des semaines par tweet interposé, mais sur un ton qui se voulait plus présidentiel.
Tonight, I am speaking to you because there is a growing humanitarian and security crisis at our southern border.
Ce soir, je vous parle car nous assistons à une crise humanitaire et sécuritaire grandissante à la frontière sud, a-t-il lancé depuis le bureau ovale. Le locataire de la Maison-Blanche a une nouvelle fois réclamé 5,7 milliards de dollars pour une barrière en acier plutôt qu'un mur en béton. Promesse emblématique de sa campagne, le mur est à ce jour resté lettre morte, les démocrates refusant de débloquer des fonds pour ce qu'ils qualifient de solution médiévale et l'exhortant une nouvelle fois à rouvrir le gouvernement.
President Trump must stop holding the American people hostage, must stop manufacturing a crisis.
Le président Trump doit cesser de prendre les Américains en otage, doit cesser de créer de toutes pièces une crise migratoire et humanitaire à la frontière, a lancé la présidente démocrate de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, en réponse au discours de M. Trump. Après 24 heures d'intense spéculation à Washington, M. Trump n'a finalement pas annoncé le recours au National Emergency Act qui lui aurait permis de contourner le Congrès et de s'appuyer sur l'armée pour construire l'édifice. Cela dit, les négociations budgétaires sont au point mort. Depuis plus de 2 semaines, quelques 800 000 fonctionnaires fédéraux sont contraints soit à rester chez eux, soit à travailler en attendant la fin du blocage pour être payés. Donald Trump va participer aujourd'hui à un déjeuner au Congrès avec les sénateurs républicains. Jeudi, il se rendra à la frontière sud pour rencontrer ceux qui sont en première ligne de ce qu'il a appelé une crise de sécurité nationale.
Toujours à Washington, selon des documents judiciaires rendus publics mardi, l'ex-directeur de campagne de M. Trump, Paul Manafort, avait partagé des sondages avec Konstantin Khmelnik, un Russe soupçonné d'être lié au service de renseignement de Moscou avant la présidentielle de 2016.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Nani Talani.
La Côte d'Ivoire envisage d'émettre un eurobond d'un milliard de dollars d'ici juin 2019, rapporte Bloomberg. L'émission d'euro-obligations pourrait être divisée en trois tranches libellées dans des devises étrangères. La Côte d'Ivoire, qui avait émis un eurobond de 1,7 milliard de dollars en mars 2018, prévoit ainsi de faire un retour sur le marché international de la dette, alors que les investisseurs internationaux exigent des taux plus élevés pour les emprunts souverains africains. En Libye, le marché des véhicules vit au ralenti. La dévaluation du dinar libyen par le gouvernement en septembre dernier pour limiter les opérations de change sur le marché noir a entraîné une hausse des coûts, entravant la demande et la production. Par exemple, un autobus Iveco moyen coûtait 33 000 dinars libyens. Avec le nouveau taux de 3,90 dinars libyens par dollar, le prix a grimpé à environ 125 000 dinars. Terminons avec la Tanzanie qui vient de nommer un nouveau ministre des Mines, Dotto Biteko, au milieu d'une longue querelle entre le gouvernement et le producteur d'or Acacia pour un montant de 190 milliards de dollars d'impôts. M. Biteko dirigeait auparavant une enquête parlementaire qui avait conclu à une fraude fiscale et à une contrebande généralisée dans le secteur des pierres précieuses. Le gouvernement s'attend à ce qu'il continue la même politique à l'encontre de pratiques corrompues et d'évasion fiscale pour sauver le secteur minier qui représente environ 4,8% du PIB de la Tanzanie.
À présent, les sports avec Yakuba Ouédraogo. Yakuba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Mohamed Salah, sacré joueur africain de l'année.
Et oui, l'attaquant égyptien de Liverpool a devancé son coéquipier en club, le Sénégalais Sadio Mané, deuxième, et le Gabonais d'Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang. Mohamed Salah réalise ainsi le doublé, lui qui a déjà été sacré l'an dernier. Chez les dames, le titre est revenu à la Sud-Africaine Christine Angatlana, élue meilleure joueuse et meilleure buteuse de la dernière CAN féminine Ghana 2018. Son entraîneuse Désirée Ellis a décroché le titre d'entraîneur de l'année, tout comme le technicien français du Maroc Hervé Renard. La Mauritanie, fraîchement qualifiée pour la première CAN de son histoire, a été désignée sélection masculine de l'année. Le Nigeria a été consacré dans les équipes féminines. Le Marocain de Dortmund, Achraf Hakimi, a arraché le titre de jeune joueur de l'année.
Mohamed Salah et les siens joueront la CAN 2019 à domicile.
Oui, le pays des Pharaons a été préféré à son unique concurrent sud-africain par le comité exécutif de l'instance africaine du football réuni hier à Dakar. L'Égypte abritera donc la première CAN à 24 équipes qui aura lieu du 15 juin au 13 juillet prochain. Le septuple vainqueur de la CAN, qui a déjà organisé la compétition à 4 reprises, sauve donc un tournoi arraché au Cameroun en novembre dernier. Depuis Libreville au Gabon, notre consultant Jules-Valentin Ngoué revient sur ce feuilleton du pays hôte de la CAN 2019.
Avec la désignation de l'Égypte comme pays hôte de la phase finale de la CAN 2019, en lieu et place du Cameroun jugé défaillant, un feuilleton houleux et passionné vient de s'achever formellement au terme d'un finish plein de suspense où, en l'absence du favori naturel, le Maroc, l'Afrique du Sud, qui a organisé trop d'événements majeurs depuis 2010, a dû céder face à une Égypte en quête de crédibilité sécuritaire. Le Maroc, le mieux armé des postulants au départ, a tempéré ses ardeurs initiales au profit de ses ambitions continentales multiples et eut besoin de s'assurer le soutien unanime de tout le continent pour l'objectif prioritaire que demeure l'organisation de la Coupe du Monde 2030. Normalement destinée à l'Afrique. L'Afrique du Sud, déjà peu motivée à accueillir cette compétition plutôt coûteuse que rentable en période de crise économique, le boulevard était ouvert pour une Égypte en quête de rachat sécuritaire. Le plus important à retenir dans ce cafouillage qui n'honore personne, c'est le manque de réalisme de la nouvelle direction de la CAF qui a pris à son compte le côté négatif de la fable de la grenouille et du bœuf de Jean de La Fontaine. Appliqué dès le départ et dans des délais utopiques, des normes de Coupe du Monde à un continent aux moyens encore modestes et en pleine ascension, revenait à réduire la capacité d'organisation de la CAN à un nombre très réduit de pays. Heureusement, l'Égypte a des infrastructures adéquates et l'expertise confirmée et en plus, elle a choisi de sauver la mise. Mais lui faudra résoudre un double problème. Relever bien sûr les défis sécuritaires et aussi faire oublier les absences du public local lorsque la fiche du jeu ne concerne pas le pays organisateur.
NBA, pour finir avec vous Idrissa, les résultats de la nuit dernière.
Indiana et Cleveland 123 à 115, Philadelphie et Washington 132 à 115, Denver et Miami 103 à 99, Toronto et Atlanta 104-101, Minnesota et Oklahoma City 119-117, Phoenix et Sacramento 115-111.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En votre compagnie, Idrissa Sedoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En République démocratique du Congo, la CIMOCEL, Synergie des missions d'observation citoyenne des élections, évoque au moins 52 irrégularités majeures constatées lors de la compilation des résultats des élections du 30 décembre dernier. Eddie Sango a joint le président de la CIMOCEL, Bishop Abraham Djamba.
Certains des observateurs n'ont pas été autorisés à observer la compilation dans 5% des centres locaux de compilation des résultats. Il y a, par exemple, des centres où les plis sont arrivés ouverts. Il y a des cas où les PV n'ont pas été affichés à l'extérieur des centres locaux de compilation des résultats à la fin du travail. Il y a des cas de refus aux témoins de résigner les PV, des falsifications des résultats des PV dans 20 cas et 3 cas d'allégations de corruption, 3 cas de destruction méchante d'un des éléments du pli, c'est-à-dire des éléments qui doivent être évalués ou pris en compte dans la compilation des résultats.
Vous parlez des matériels sensibles qui sont en circulation dans votre rapport.
Il y a le matériel sensible comme la machine à voter, comme les bulletins. Nous ne nous expliquons pas que ce matériel qui est censé bénéficier plutôt d'une protection particulière de la part de la centrale électorale puisse se retrouver entre les mains des particuliers. Nous demandons à la CENI de s'expliquer sur cette situation et puis de prendre des mesures pour que les résultats qui proviendraient de l'utilisation de ce matériel ne puissent pas être introduits dans la compilation des résultats.
Justement, avec toutes ces irrégularités, quel impact ça peut avoir sur les résultats qui sortira de la compilation?
Non, je crois que ce n'est pas encore le moment de parler de l'impact, parce qu'il faut une étude plus approfondie. Nous avons des cas que nous avons jugés comme étant d'irrégularité majeure, c'est 52 cas, donc vous comprenez que sur l'échelle de 76 000 bureaux de vote de l'ensemble du pays, c'est vraiment localisé. Mais on peut encore s'interroger sur les cas où les témoins n'ont pas été acceptés de suivre la compilation, les témoins, les observateurs. On peut s'interroger sur le fait de non-affichage des résultats après compilation. Je crois que le processus congolais est tel que plusieurs personnes, plusieurs parties prenantes, que ce soit les candidats, les partis politiques, les missions nationales d'observation et même les électeurs eux-mêmes se sont organisés pour surveiller les scrutins. Donc les PV et les fiches de résultats se retrouvent entre les mains de plusieurs personnes. Donc il y a moyen de continuer toujours à s'assurer que ce qui va être publié est véritablement le résultat des urnes.
Bishop Abraham Djamba, président de la CIMOCEL à Kinshasa.
Raissa Girondin avec vous. Dans Washington Forum ce jeudi, la République démocratique du Congo, toujours dans l'attente des résultats de la présidentielle. Attendu le 6 janvier, les résultats ont été reportés sine die par la CENI. Son président Corneille Nangaa a déclaré que plus de la moitié des bulletins de vote avaient été compilés. Que penser de cette attente? Que pensez-vous de la pression de la Conférence épiscopale du Congo qui dit détenir d'ores et déjà le nom du vainqueur? Doit-on redouter des violences à l'heure du verdict? Nous attendons vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Washington Forum, ce jeudi à 19h en temps universel.
Au Gabon, retour à la normale à Libreville, la capitale, après le putsch manqué de lundi matin. Pour rappel, des membres d'un commando étaient allés à la radio nationale pour appeler à un soulèvement et annoncer la prochaine formation d'un conseil national de restauration de la démocratie. Cette tentative de putsch a été très vite étouffée par les forces de l'ordre. Idriss Fall a recueilli la réaction de Lionel Essono Ondo, leader du parti Réagir et ancien porte-parole de l'opposant Jean Ping.
Cet événement est malheureux, le signe de l'exaspération du peuple gabonais qui, depuis un certain temps, vit dans des conditions abominables et qui est instrumentalisé, manipulé par un régime politique qui ne veut pas reconnaître que M. Ali Bongo aujourd'hui est dans l'incapacité de diriger le pays. M. Ali Bongo a fait un AVC à Riyad en Arabie Saoudite le 24 octobre 2018. Comme toute personne, on peut tomber malade. Nous regrettons effectivement cet événement. Mais bientôt, 3 mois, que M. Ali Bongo n'est pas au Gabon. Il se dit être en convalescence à Rabat au Maroc. Nous ne savons pas si Ali Bongo a encore la pleine capacité morale, intellectuelle et physique pour présider aux destinées du Gabon.
La population gabonaise n'a pas suivi l'appel lancé par les auteurs de ce coup manqué.
Je ne pense pas que l'objectif de ce commando, si on peut l'appeler ainsi, était d'amener à un soulèvement populaire immédiat. Notre analyse est plutôt qu'ils sont venus lancer un signal d'alerte pour dire ce que nous soupçonnons tous, que M. Ali Bongo Ondimba n'est plus en capacité de diriger convenablement le pays. Après son violent AVC, est aujourd'hui un peu hémiplégique. Nous l'avons constaté lors de la vidéo du 31 décembre 2018. C'est un Ali Bongo qui était incapable de prononcer correctement une phrase. Et ce commando a pris ses responsabilités pour soulever le voile entretenu par le régime en place.
Est-ce que ça veut dire que vous légitimez ce commando ?
Nous sommes un petit pays, 1 800 000 habitants. Aucun Gabonais normalement constitué ne peut souhaiter qu'éclate au Gabon une escalade de violence ou que le pouvoir politique soit entre les mains de l'armée. Je minimise la portée du concept de push dans la mesure où nous avons vu des personnes un peu mal organisées, pas très bien structurées et dont le but essentiel était de faire passer un message et non de plonger le pays dans le désarroi. La tentative de putsch, si on peut l'appeler ainsi, nous ne légitimons pas la violence. Mais ceux qui participent aux actes de haute trahison envers l'État, envers le peuple gabonais, en choisissant la maladie de M. Ali Bongo, dans le but de confisquer le pouvoir, au détriment des intérêts fondamentaux du pays, pour s'accaparer les richesses du Gabon. Ceux-là sont ceux qui réellement cherchent le chaos au Gabon. Nous disons une seule et une seule chose. Si Ali Bongo peut aujourd'hui diriger le Gabon, après avoir vécu une tentative de putsch, une tentative de renversement, il est normal que M. Ali Bongo prenne la parole, qu'il dise et rassure son armée, qu'il rassure le peuple gabonais, qu'il dise à la communauté nationale et internationale qu'il y a encore au Gabon un capitaine qui tient la route.
C'était Lionel Essono Ondo, leader du parti Réagir et ancien porte-parole de l'opposant Jean Ping.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
La situation humanitaire se détériore de plus en plus à Bakouma, dans l'est de la République centrafricaine. Cette localité minière, occupée depuis quelques jours par des rebelles du FPRC et de l'UPC, s'est complètement vidée de ses habitants. Les autorités locales appellent Bangui à l'aide. Sur place, dans la capitale centrafricaine, notre correspondant Freeman Sipila.
C'est depuis le 31 décembre dernier que la ville minière de Bakouma est passée sous le contrôle des hommes du FPRC de Nour Adin Adam et de l'UPC du chef de guerre nigérien Ali Darassa. Plus d'une dizaine de personnes ont été tuées pendant la prise de la ville alors que des milliers d'autres ont fui en brousse et vers Bangassou à 130 km de là. Ces hommes armés hostiles à toute négociation avec les autorités assurent avoir investi Bakouma pour combattre des hommes de l'armée de résistance du Seigneur, LRA, une rébellion ougandaise quasi inopérationnelle depuis plusieurs mois dans cette zone. Aboubakar Sidik, porte-parole du FPRC.
C'est juste seulement une mesure sécuritaire, car nous avons décidé d'envoyer nos éléments au niveau de Bakouma suite aux préoccupations des populations qui subissent à chaque fois les exactions de LRA, le groupe de Joseph Kony, qui sévissent dans cette localité là-bas. Et il y a aussi des groupes de bandits qui empêchent la population d'évacuer à leur occupation. C'est suite à cela que nous avons décidé d'envoyer nos éléments là-bas afin de sécuriser la localité. Donc notre objectif, c'est cela.
Affirmation rejetée en bloc par plusieurs sources locales contactées par VOA Afrique. Des sources qui se sont interrogées si réellement ces hommes lourdement armés avaient l'intention de sécuriser la localité. Pourquoi alors sont prendre aux habitants, tuant des gens et pillant leurs biens. Sur le terrain, la situation humanitaire est en ce moment catastrophique dans cette ville riche en uranium, car de nombreuses personnes, parmi lesquelles des enfants, continuent de fuir en brousse pour tenter de gagner Bangassou à pied. La préfète du Mbromou, Pierrette Benguiré, appelle à l'aide.
Je profite de cette occasion pour lancer un vivant appel au collectif de députés du Mbromou, que la population est en train de souffrir. S'ils peuvent faire un geste pour venir à leur secours, aux humanitaires d'intervenir le plus rapidement possible pour la population qui est en détresse, et aux ressortissants du Mbromou de faire un effort parce que les parents sont en train de souffrir.
À Bangui, l'organisation de la société civile dénommée SCRCA monte au créneau et engage le gouvernement à prendre ses responsabilités, selon Chtoabina, sa coordonnatrice.
J'exhorte le gouvernement de prendre ses responsabilités, car les gens vivent dans la brousse, il y a eu des morts, on ne peut même pas savoir combien de personnes sont mortes, et les gens sont là, ils ne réagissent pas. Il faudrait quand même que le président de la République parle pour consoler les populations qui sont en fuite dans la brousse, un message pour leur donner la force d'être forts. Mais il y a les militaires qui sont sur place. Est-ce qu'ils sont suffisants? On nous parle des Russes, la MINUSCA, tout ça. Mais les gens sont en débandade, ils vivent dans la brousse comme les animaux. C'est vraiment déplorable. Nous avons beaucoup œuvré pour la paix. Mais en ce qui concerne les groupes armés, ça c'est une réponse forte qu'il faut voir avec le gouvernement et la communauté internationale. Ce qui pose problème, ce sont les groupes armés. Et les groupes armés, la solution ne viendra pas de la société civile parce qu'il faut une manière forte pour arrêter tout ça. Il faut arrêter l'hémorragie.
Le gouvernement n'a pas encore officiellement réagi à cette agression alors qu'il est sur la droite ligne d'un dialogue avec les groupes armés sous la bannière de l'Union africaine. Des forces armées centrafricaines FACA et des casques bleus de la MINUSCA sont positionnés à 11 km de Bakouma pour empêcher toute progression de ces hommes lourdement armés vers Bangassou. Freeman Sipila, Bangui, pour VOA Afrique.
Vous êtes sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en République centrafricaine, à Bangui, sur le 101.7 FM.
Au Niger, une récente enquête Afrobaromètre indique que les conditions économiques du pays se détériorent pendant que le niveau de corruption augmente. Plus de deux tiers des Nigériens désapprouvent par ailleurs l'orientation actuelle du pays, selon la même enquête. Notre correspondant Abdulrazak Idrissa revient dans ce reportage sur le rapport d'enquête présenté à la presse par les initiateurs.
L'enquête a été commanditée par le laboratoire d'études et de recherche sur les dynamiques sociales et le développement local, LASDEL. Elle a concerné un échantillon de plus de 1000 personnes sur l'ensemble du territoire national. Ali Bako, chercheur au LASDEL, membre de l'équipe d'enquêteurs.
C'est des données des Nigériens du plus profond du Niger, même les zones où cités comme rouges, c'est-à-dire à savoir Diffa, le nord de Tillabéri. Toutes ces régions ont été concernées par les enquêtes et au total 1200 Nigériens ont été enquêtés, 600 femmes et 600 hommes pour avoir ces données-là. Les résultats, ils sont vraiment nombreux. Tous les secteurs sont concernés, mais on fait une ou deux disséminations. La première dissémination, elle porte sur la corruption et les conditions socio-économiques des Nigériens. Vous avez vu que les perceptions des Nigériens par rapport à leurs conditions de vie sont assez pessimistes. On a plus de la moitié des Nigériens qui pensent qu'ils vivent mal et que les conditions de vie sont défavorables. Le deuxième point, c'est sur la corruption et on a vu plus de 60% des Nigériens pensent que l'administration nigérienne est corrompue.
Les résultats de l'enquête sont diversement appréciés dans l'opinion. Pour Abdoumaman Lokoko, acteur de la société civile, l'échantillon n'est pas représentatif.
Le rapport tel qu'il a été présenté, à mon avis, représente un échantillon très faible de la population du Niger, au point de consister en tout cas un élément qu'il faut réellement prendre en compte pour extrapoler, surtout par rapport à la gouvernance. À mon avis, vraiment, il faut peut-être prendre de la mesure avant de publier un rapport aussi grave, il faut le dire, que celui-là, qui risque honnêtement de désorienter le citoyen.
Soumaila Abdoussadou, lui, est activiste. Il estime que ces résultats sont le reflet de la réalité que vivent les Nigériens.
Tous les Nigériens savent que ce pays marche à reculons. La corruption a fait du Niger son lit.
et elle s'est installée confortablement dans notre pays. Si les Nigériens aujourd'hui, la majorité, pensent que leurs conditions de vie ne s'améliorent pas, ils ne croient pas à la gouvernance, c'est tout à fait normal. Puisqu'ils savent que tous ces lui qu'on nomme, c'est pour se sucrer, c'est pour s'enrichir, c'est pour voler. Et c'est dans ce schéma que nous sommes depuis toutes ces années-là. Ça n'a pas changé, ça ne fait que se répéter. Et malheureusement, ces dernières années, ça s'est dégradé, ça s'est amplifié.
Abdullah Razak Idrissa, à Niamey, pour VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Daryl Smith. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.